l'administration de la justice devant cette maman. Voilà, merci pour vos nombreux SMS que je ne peux pas citer tous ce soir. Merci pour votre fidélité à cette libre antenne, chers amis. Je vais vous souhaiter une bonne nuit et puis on se retrouve très vite, hein, à 22h15 tout à l'heure. Je vous laisse avec Marlène et les programmes de la nuit. Dormez bien, respirez bien. N'oubliez pas qu'ici, on vous aime. Salut.
Merci Olivier, merci de votre présence ici dans ce studio Lumière Tamisée comme toujours et depuis lequel vous accueillez nos auditeurs pour ces instants de partage. On vous en remercie, rentrez bien et bonne nuit. Europe 1, il est 1h. Jusqu'à 5h, nos émissions se redécouvrent, se réécoutent et on va commencer avec On de la Traconte, avec l'une des affaires les plus incroyables du XXe siècle, l'affaire du tueur de la pleine lune, Francis Leroy, qui se déroule entre les années 60 et le début des années 80 et qui a pour décor la région de Bergerac. L'histoire d'un homme qui ne passe à l'acte que les soirs de pleine lune et pour le débrief, nous aurons le point de vue d'un scientifique qui nous dira si la lune a des influences sur le comportement humain. Excellente nuit à tous.
Europe 1, Christophe Ondelatte.
Le 1er décembre 1978, vers 6h30 du soir, à Bergerac en Périgord, Jean-Pierre, 17 ans, rentre du lycée. Il ouvre la porte de chez lui. Et là, un homme lui saute dessus. Un grand, avec un bas sur la tête, armé. Au début, Jean-Pierre croit que c'est une mauvaise blague d'un copain de lycée, mais très vite il comprend que l'homme le tient vraiment en joue, que sa vie est en danger. Le type le traîne dans la chambre, il l'attache avec du sparadrap.
« Tu es seul, à la maison ?»«
Oui. »«
Et t'es pas là ? À quelle heure il rentre ?»«
Tout à l'heure. »
Et ensuite silence, jusqu'au retour de la mère.
« Maman ! Maman, c'est pas une plaisanterie ! Fais ce qu'il te dit !»
Et la mère est à son tour ligotée. Et puis le père rentre à son tour. Et les voici maintenant tous les trois ligotés et bâillonnés. Contraints d'écouter cet homme qui parle beaucoup. Avec un accent espagnol, vous avez remarqué. Ses propos sont décousus. Il parle de la guerre, de la révolution, de la fuite en Espagne. Et il ajoute...
Il y avait une voiture.
Une voiture? Les trois ont surtout l'impression qu'il attend quelqu'un. Sinon, pourquoi resterait-il? Mais là, maintenant, tout de suite, il a faim, manifestement, et soif. Jean-Pierre et ses parents l'entendent ouvrir le réfrigérateur. Et il n'est pas content.
Mais qu'est-ce que c'est que cette maison où il n'y a rien à boire et à manger?
Six heures s'écoulent, durant lesquelles ils sont là, tous les trois, terrorisés, se demandant ce qui va leur arriver. Et puis, ils entendent la porte d'entrée s'ouvrir... Et plus rien. Jean-Pierre parvient à se détacher. Il sort, il fait le tour de la maison. L'homme est parti. Et après avoir réclamé une voiture, eh bien, il est parti à pied. Il a volé un briquet et une montre. C'est tout. Mais que cherchait-il? Que voulait-il? Pourquoi? Pourquoi? À cause de son accent espagnol, les gendarmes explorent un temps la piste de l'organisation terroriste basque espagnole ETA. Les combattants d'ETA, c'est connu, se réfugient en France et notamment dans le sud-ouest. Mais ça ne donne rien. Les gendarmes font aussi le tour des Espagnols de la région. Rien de rien. Alors finalement, l'affaire est classée sans suite. Deux ans plus tard, fin 1980, deux autres familles de Bergerac subissent le même sort. Elles sont séquestrées par un homme grand, maigre, masqué, avec un accent espagnol. Et elles ajoutent toutes les deux un détail.
Moi, j'ai trouvé que cet homme dégageait, vous savez, une odeur de sous-bois, quoi.
Une odeur de sous-bois? Mais que voulez-vous que les policiers fassent de ça? Ça ne les aide pas à percer le mystère. D'habitude, quand ils prennent des gens en otage, les gens ont un but. Le vol, le viol, le meurtre. Là, le type s'introduit chez les gens, il les neutralise. Et après, il fait rien. Il attend, c'est tout. Il ne vole pas ou alors des objets sans valeur. Et il réclame des clés de voiture et il s'en va à pied. tout ça ne tient pas debout. Deux ans plus tard, en octobre 1982, celui qu'on appelle désormais le fou de Bergerac frappe encore. Il est 7 heures du matin, une femme est réveillée par un bruit. Son mari vient de partir, sa fille de 12 ans dort encore. Elle se lève et elle se retrouve nez à nez avec un homme très grand, masqué, qui lui colle un couteau sous la gorge et qui la viole. Et puis il la ligote dans la chambre de sa petite fille.
Tu comptes jusqu'à 200. Et à 200, la fille pourra te détacher. Et vous gardez le silence, hein? Sinon, je m'en plains à la petite.
Et là, il disparaît. Et quand il est parti, la petite fille dit à sa mère.
Le jour où on arrêtera le type qui a fait ça, je te dirai quelque chose, maman.
Et par crainte des menaces qu'il a proférées, la petite garde son secret pendant un an. Et puis un jour, elle lâche le morceau.
Tu sais, maman, cet homme, il était déjà venu.
Et ce que raconte la gamine est terrible. Un samedi matin, elle dormait encore, ses parents étaient partis travailler. Il l'a surgi dans sa chambre, il l'a emmenée dans les bois, il l'a violée. Et ensuite, il l'a ramenée chez elle et il lui a dit
« Si tu parles, il y aurait tout et tes parents. »
C'est pour ça qu'elle n'a rien dit jusqu'ici. Et donc à ce stade, le fou de Bergerac a frappé 5 fois, 3 fois sans raison apparente, et 2 fois, il a violé. Il réapparaît fin octobre 1982, toujours à Bergerac. Mais le père de famille le met en fuite. Et ensuite, il fait une pause de 10 mois. Et il frappe à nouveau le 26 août 1983, chez les Bauduin. Il est 21h, c'est une belle soirée d'été. Alix Bauduin, son mari et son frère dînent sur la terrasse. Les enfants sont déjà couchés. Et soudain, un homme avec un masque de vieillard et vêtu d'un poncho se jette sur eux, une carabine à la main.
Plus un geste, hein? La maison est cernée.
Il ligote tout le monde dans une chambre. Il réclame les clés de la voiture. Il raconte une histoire sans queue ni tête. Il arrive d'Espagne. Il doit y repartir. Et il attend. Il attend le reste de la famille, les beaux-parents d'Alix et l'un de ses beaux-frères, qui arrivent vers 22 heures. Et là, Alix Bauduin leur crie.
Ne faites rien. Il y a quelqu'un qui va nous tuer si vous faites quoi que ce soit.
Et la belle-mère se met à hurler. Et le beau-père, qui est amiral et qui a fait 3 guerres, voit que la carabine qu'il tient ne peut tirer qu'un seul coup. Alors il se jette sur lui, ils se battent, et à un coup part, la balle traverse le bras de l'amiral. Et l'homme s'enfuit. Et tout de suite, les gendarmes se disent « C'est lui, c'est le fou de Bergerac. » Et maintenant, ils savent que son arme est chargée. Et cette arme, figurez-vous, qu'il l'a abandonnée en s'enfuyant. C'est une carabine 22 longs rifles. Elle a le canon et la crosse sciées. Mais sur l'arme, il n'y a pas d'empreinte. Il avait des gants. Et la carabine n'est enregistrée nulle part. L'amiral Bauduin a entreaperçu son visage derrière le masque.
Je dirais qu'il a les cheveux châtains et noirs, bouclés dans le cou et... de grandes pattes. Un type du pays. Il ressemble à un périgourdin.
L'amiral aide les gendarmes à réaliser un portrait robot qui est diffusé. Un homme est interpellé qui lui ressemble beaucoup et qui, en plus, a une rougeur sur le cou. Est-ce que ça serait pas le coup de poing de l'amiral? Malheureusement, non. D'après le médecin, ce sont des boutons. Rien de plus. 4 mois plus tard, en décembre 1983, le fou frappe encore. Marie-Ange et son mari dorment. Ils sont réveillés par une voix.
Nous sommes deux. Nous sommes évadés de la centrale d'Eis. Nous voulons de l'argent, des papiers et les clés de la voiture.
La voix ordonne à Marie-Ange d'attacher son mari.
Prenez un papier et quelque chose pour écrire. C'est bon? Écrivez. Vive les vacances, vive la liberté, vive les voyages. C'est bien.
Et après, il disparaît.
Et il réapparaît un mois plus tard, le 24 janvier 84, à Lambras, 1000 habitants, pas très loin de Bergerac. Il est 5h30, Gaël, 18 ans, rentre du lycée. C'est l'hiver, il pleut, et l'homme est déjà là, planqué dans le garage, armé. Et quand elle ouvre la porte, il lui saute dessus. Il l'entraîne dans sa chambre, il l'attache, et une fois de plus, il attend le reste de la famille. La mère et la petite sœur arrivent vers 6h30. Il leur prend la carte bleue et 300 francs que la mère a sur elle.
« Il veut les clés de la voiture. »
Il les ligote toutes les trois. Et là arrive le fils, Marc, ligoté lui aussi et enfermé dans un placard. Voilà, tout le monde est rentré. On n'attend plus personne.
Et à ce moment-là, le téléphone sonne. Il enlève le baillon de la fille aînée, Gaëlle.
« Tu vas répondre. Et tu vas dire que ta mère... Il est parti chez les amis, hein? Vas-y.
Allô? Ah non, maman, elle est chez des amis.
Sauf qu'à l'autre bout du fil, Jacques, un ami de la famille, sent qu'il y a un truc qui cloche. Il se dit, j'y vais. Quand Jacques ouvre le portail, il se retrouve face à l'homme masqué. On ne sait pas exactement ce qui se passe à ce moment-là. Course-poursuite dans le jardin. Et une demi-heure plus tard, la police... Ça ressemble à une bonne nouvelle. Sauf que si les policiers sont là, c'est parce qu'on vient de retrouver Jacques, mort, lardé de 7 coups de couteau. Le tueur était grand et maigre. Le fou de Bergerac devient le tueur de Bergerac. Et à partir de là, à Bergerac, la psychose monte d'un cran, au point qu'une radio locale doit lancer des appels au calme au cas où certains seraient tentés de tirer à travers leur porte au premier coup de sonnette. « Attention ! Derrière la porte !» dit la radio locale. « Il y a peut-être votre voisin ou votre fils. »
Grand, maigre, il parle aussi de son odeur de sous-bois, tout ça on le savait. Mais Gaëlle, la fille aînée, ajoute un détail qui n'avait jamais été évoqué.
J'ai remarqué qu'il avait un léger handicap à la main droite.
Bon, c'est toujours ça de prix, et au moins c'est du concret. Parce que pour le reste, on nage en plein délire.
La presse s'est aperçue que Le fou de Bergerac est le titre d'un roman de Simenon, un Maigret qui a été adapté à la télévision. Le chef des gendarmes dit un jour à des journalistes que c'est devenu son livre de chevet.
Il y a de la surchauffe sous les képis. Parce que qui lui a donné ce nom?
Eh bien la presse. Il ne s'est pas donné ce nom lui-même. Et pourtant, on va emmerder un certain Pierre Béthune, chauffeur de taxi, grand et maigre, qui a été chauffeur de l'équipe de tournage qui a adapté le Maigret pour la télé.
Véridique!
Heureusement qu'il avait un alibi, le bougre. En revanche, la suite ressemble à un délire et pourtant c'est ça qui va tout débloquer. La scène se passe au commissariat de Bergerac. Pour s'amuser. Pour s'amuser, hein, parce que je vous rappelle que ce sont les gendarmes qui ont l'enquête. Les flics inscrivent chaque agression sur un grand calendrier en carton. Et ils s'aperçoivent qu'elles ont toutes eu lieu au moment de la pleine lune. Incroyable! Et donc le lendemain au café, ils le disent à leurs potes. Et là, un collègue des renseignements généraux leur dit « La pleine lune, vous dites ? Ah, mais j'ai peut-être quelque chose pour vous. Ma femme, elle fait du cheval. Et dans son centre équestre, il y a un homme qui a commis un meurtre il y a longtemps. Je crois qu'on l'appelait l'assassin de la pleine lune. »
Les policiers plongent dans leurs archives et ils trouvent des coupures de presse et des procès-verbaux qui parlent effectivement de l'assassin de la pleine lune. Francis Leroy.
Voyons, voyons. Écoutez ça, les gars. Ouh, j'ai du lourd. En 1961, à Saintes, en Charente-Maritime, ce Leroy a tué une jeune femme prénommée Christiane. Il s'est introduit chez elle la nuit. Et le lendemain, on l'a retrouvée nue, morte, étranglée. Et il a recommencé en 62. Écoutez, toujours à Saintes, il s'introduit au domicile d'une femme de 59 ans, et il lui vole un transistor et il disparaît. Et cet homme se fait pincer en mars 1962. À 4h du matin, il entre chez une mère de famille, il a un couteau.
Où est l'argent ?
La femme montre le tiroir de la commode, il l'ouvre, et là elle hurle. Et lui, il a peur, il s'enfuit. Et en s'enfuyant, il laisse derrière lui des confettis sur le sol. Des confettis. La veille, c'était le bal de l'école d'agriculture. Les policiers fouillent l'école, et dans le casier d'un élève de deuxième année qui s'appelle Francis Leroy, ils trouvent un transistor Philips volé à Saintes en février. Le roi est arrêté et il avoue. Et en 1964, il est condamné par la cour d'assises à 20 ans de prison. Et c'est là qu'on s'aperçoit que toutes ces agressions ont eu lieu le soir de la pleine lune. C'est là qu'il gagne son petit nom, l'assassin de la pleine lune. Ah, un petit détail, c'est le roi. Il lui manque deux phalanges à l'auriculaire droit. Vous vous rappelez de la petite Gaëlle? Elle a parlé d'un handicap à la main droite. C'est lui, c'est le roi, c'est le tueur de la pleine lune qui s'est remis en marche. Et où est-il aujourd'hui, c'est le roi? Condamné à 20 ans, il a fait 11 ans de prison. Il est sorti en 1973. Et effectivement, il travaille dans un centre équestre à Bourdeil, qui appartient en fait à ses parents. Et lui, il habite à Périgueux, dans une petite maison. Les policiers de Périgueux transmettent immédiatement leurs infos aux gendarmes, qui pourraient aller le serrer tout de suite, mais qui commencent par se rencarder. Ils vont voir les voisins. Que des éloges. Le type a une vie tout à fait normale. Il est impliqué dans des associations. Il s'investit notamment pour le développement du Périgord vert. Avec un gros bémol, tout de même. Il est grand et maigre, mais il ne ressemble pas du tout au portrait robot. Les gendarmes le prennent discrètement en photo. Ils vont montrer la photo à l'amiral Bauduin. Vous pouvez nous dire si c'est lui ? Ouais, ça pourrait être lui. Il est temps de l'interpeller. Un soir, il rentre chez lui avec sa compagne. Dès qu'il sort de la voiture, les gendarmes lui sautent dessus. Il n'oppose aucune résistance. Il est très calme. Il se laisse fouiller. Et dans sa sacoche, les gendarmes découvrent une carte bleue au nom de son avant-dernière victime. Et dans sa petite maison, il tombe sur un calendrier. À la date du 24 janvier, il est écrit « Francis, absent ». C'est sa compagne qui a écrit ça. Et elle confirme que ce soir-là, il n'est pas rentré. C'est lui. Plus de doute. Et les gendarmes amènent le roi à la ferme des Bourdeilles chez ses parents. Et dans une chambre sous le lit, il trouve un morceau de crosse de fusil. Et là, le roi s'effondre. C'est le déclic. En garde à vue, il déballe tout. Ça dure toute la nuit. Il avoue les séquestrations, les deux viols, et il raconte en détail le meurtre de Jacques.
Moi, quand il a débarqué, j'allais partir. Quand je l'ai vu, je me suis enfui. Il m'a couru après. On s'est battu, j'avais un couteau. Voilà, je me suis défendu, quoi. C'était un accident, je voulais pas le tuer.
Un accident ? 7 coups de couteau. Le lendemain, Francis Leroy est présenté au juge d'instruction. Devant le tribunal, il y a des centaines de personnes venues le conspuer. On réclame sa tête. On le traite de loup-garou. Les journalistes écrivent « C'est le Moyen-Âge. Il ne manque que l'échafaud. » Devant le juge, le roi bute sur le pourquoi. Pourquoi ces séquestrations? Pourquoi ces viols? Pourquoi ce meurtre? Sur le moment, il n'a pas d'explication. C'est plus tard qu'il parlera d'envoûtement, de forces occultes et de son goût depuis tout petit pour l'ésotérisme et le paranormal. En attendant, il y en a une qui ne peut pas croire, qui ne veut pas croire. Il est coupable. Une qui le couvre comme une louve depuis toujours. Sa maman. Et là, il faut que je m'arrête 2 minutes parce que la maman, c'est la clé pour comprendre le personnage. Francis Leroy naît en 1940, en pleine guerre, la veille de Noël. À ce moment-là, son père est prisonnier en Allemagne. Et quand le père rentre de captivité en 45, la mère ne lui laisse aucune place auprès de son fils. Aucune. C'est le fifis à sa maman. Et pour vous dire à quel point elle le couve, ils habitent à 100 mètres de l'école. Et bien quand le petit Francis a envie de faire pipi, la maman exige qu'on le ramène chez lui. Elle a l'exclusivité de son zizi. La mère castratrice par excellence. Et plus tard, à 15 ans, quand il commence à sécher les cours, eh bien, elle lui signe tous les mots d'absence dont il a besoin. Et donc, naturellement, quand il sort de prison en 73, il revient chez maman, qui, entre-temps, a acheté une ferme à Bourdeille. Et il reprend sa place de petit garçon auprès de sa maman. Et elle se remet à le couver. Il n'a même pas d'argent à lui, alors qu'il travaille à la ferme. Il accompagne des randonnées à cheval. Il n'a que de l'argent de poche, passé 40 ans. Et quand il a voulu lui présenter une femme, bah ça n'allait jamais. Elle fumait, elle buvait, elle parlait trop. Ça n'était jamais celle qu'il lui fallait. Et c'est sans doute comme ça, pour ça, parce qu'il est étouffé, frustré, castré, que Francis Leroy se réfugie dans l'occultisme, le vaudou, la chouette, les forces occultes. Le terrain était favorable, hein. Depuis tout petit, sa mère le soigne par des guérisseurs. Francis Leroy a dit au juge qu'à chaque fois qu'il est passé à l'acte, à chaque fois qu'il est entré chez des gens, il a été poussé par des forces occultes. Et la question maintenant, c'est, est-ce qu'il est sincère? Autrement dit, est-ce qu'il est fou? Ou est-ce qu'il est en train de manipuler le juge? Le juge missionne des experts psychiatres. Et leur réponse est sans appel. Cette histoire de force occulte est une manœuvre. Il pense que ce qui le caractérise, c'est un sentiment de toute puissance, un désir d'emprise, un désir de possession. C'est un sadique qui jouit de son pouvoir, de sa domination sur les gens qu'il séquestre. C'est pour ça qu'il les attache. Donc, c'est un psychopathe, mais certainement pas un malade mental qui a agi contre son plein gré. Et la lune, alors? Parce que ça, c'est incontestable, hein. Il passe bien à l'acte les nuits de pleine lune, aussi bien dans les années 60 que dans les années 80. Le juge d'instruction fait partie des croyants. Il croit à l'influence de la lune. Mais il ordonne tout de même des expertises, et c'est une grande première dans la justice française. Des médecins vont mesurer chez le roi l'évolution de 2 hormones, la mélatonine et l'ACTH, qui toutes les deux participent à la régulation du stress. En prison, on va lui faire des prises de sang à des moments différents du cycle de la lune. Et on s'aperçoit qu'au moment de la pleine lune, le roi présente des taux 2 à 4 fois supérieurs à la normale. Conclusion des experts, oui, le roi est soumis à l'influence de la lune. Ça vous plaît, ça, hein? Mais vous me connaissez, n'est-ce pas? Vous savez que contrairement au juge, moi je ne suis pas croyant. Alors permettez-moi 3 remarques. D'abord, les experts ont omis de mesurer ces taux d'hormones en dehors des périodes de pleine lune. C'est ballot. Ensuite, ils n'ont pas tenu compte du fait qu'il est en prison, ce qui doit quand même rajouter à son stress. Et enfin, ils n'ont pas comparé ces dosages d'hormones avec ceux d'autres prisonniers. C'est dommage. Bref, vous ferez comme les jurés. Vous croirez à l'influence de la lune ou pas? Car maintenant, il faut juger Francis Leroy. Le roi comparé devant la cour d'assises de Dordogne à Périgueux le 19 juin 1989. Et figurez-vous que c'est un jour de pleine lune. Et assez vite, la lune et ses effets sont au cœur du procès. Les avocats de Leroy, évidemment, en jouent à fond. Il est sous l'influence de la Lune. Il n'est qu'à moitié responsable. On fait venir à la barre un certain Rémi Chauvin, biologiste, spécialiste des effets de la Lune. Mais le ballot commet une faute. Il donne une interview à la radio régionale avant sa déposition.
Eh bien, écoutez, je dirais que par le biais de dérèglements hormonaux, la Lune peut avoir une influence sur le comportement de quelqu'un.
Ça ne se fait pas de parler aux journalistes avant de parler à la Cour. Et le président et l'avocat général sont furieux. Il aurait dû garder la primauté de ses conclusions pour la Cour. Le président accepte qu'il dépose, mais il est déstabilisé et donc décrédibilisé. Et il s'enfonce un peu plus quand il déclare
« Je dois dire que les oies se comportent différemment selon les périodes de lunaison. »
Éclat de rire général. Le roi n'est pas une oie. Le journal Sud-Ouest titre « La lune dans le caniveau ». À la fin du procès, le réquisitoire de l'avocat général Gérard Albiger est implacable.
Le roi est un chacal qui atteint ses proies. C'est un être qu'il faut neutraliser. Il faut l'arrêter. Et par pitié, finissons-en avec l'influence de la Lune. Le roi est responsable de ses actes. Il n'a aucune, vous entendez, aucune circonstance atténuante. Ni la Lune, ni sa mère castratrice, ni aucune forme de folie. En conséquence de quoi vous allez le condamner à une peine de réclusion criminelle à perpétuité, que vous assortirez, en vous souvenant qu'il est en état de récidive, d'une peine de 30 ans de sûreté. La défense de le roi tente de plaider une forme de folie. À la fin, le roi bredouille quelques mots en direction des victimes. Il apparaît plus misérable que fou. En moins de 3 heures, les jurés de Périgueux condamnent Francis Leroy à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une période de sûreté, non pas de 30, mais de 20 ans. À l'énoncé du verdict, il ne montre aucune réaction. Il est sorti de prison depuis. Il a quitté le Périgord et il n'a jamais plus refait parler de lui. Voilà pour cette incroyable histoire et au passage d'ailleurs une précision, je m'aperçois que je ne vous l'ai pas dit, mais son accent espagnol était en vérité un déguisement qu'il n'avait pas utilisé dans les années 60 et utilisé uniquement entre 78 et 1984. J'ai voulu débriefer cette histoire avec un scientifique pour parler des effets de la Lune sur le comportement humain. Et je suis donc avec Jérôme Bellayé qui est physicien et qui collabore au laboratoire de zététique de l'université de Nice, Sophia Antipolis, et qui a justement publié un ouvrage intitulé « Sous l'emprise de la Lune » aux éditions Bookie Book. Alors Jérôme Bellayé, d'abord expliquez-nous ce que c'est la zététique.
Oui, alors effectivement c'est un nom un petit peu étrange, mais c'est en fait ça vient du grec « zétein » qui veut dire « chercher », et c'est tout simplement appliquer la méthodologie scientifique à... des phénomènes que l'on va dire paranormaux.
Alors, vous nous direz tout à l'heure à quelle conclusion vous êtes arrivé sur l'influence de la Lune sur le comportement humain. Mais d'abord, j'ai envie de vous entendre sur cette histoire, l'histoire de Francis Leroy. Qu'est-ce qu'elle vous inspire, cette histoire, vous, le scientifique ?
Effectivement, c'est une histoire qui est très intéressante parce qu'elle montre plusieurs choses. Et une des premières, c'est le fait d'arriver à trouver des spécialistes qui vont pouvoir nous dire que la Lune a une influence sur le comportement humain. Et quand on regarde effectivement ce que j'ai fait, les études scientifiques qui ont été faites, on n'en trouve aucune qui montre de manière significative et reproductible une quelconque influence de la Lune sur le comportement humain.
Elles sont produites par des spécialistes.
Oui, tout à fait. Quand on regarde par exemple les croyances dans les influences de la Lune, il y a eu 2 sondages en 87 et en 1995 qui montrent que près de 80% du personnel médical croit à une influence de la Lune. c'est assez impressionnant, contre environ 43% de la population. Donc la croyance est très très répandue dans ce milieu. Et après, sur les études en elles-mêmes, les études scientifiques en elles-mêmes, il y a plusieurs choses à dire dessus, c'est-à-dire que on va trouver des petites études sur des effectifs assez réduits qui vont pouvoir montrer un effet quelconque. Mais en fait, d'un point de vue statistique, c'est pas anormal de trouver quelques études qui montrent un effet, puisqu'avec les critères retenus par les scientifiques qui étudient cela, en gros, une étude sur 20, même s'il n'y a pas d'effet, montrera un effet, on va dire, juste par hasard, quoi. Donc trouver quelques petites études qui montrent un effet, on peut en trouver quelques-unes. Mais si on élargit le regard, et si on élargit le nombre d'études prises en compte, on remarque que le sentiment global, c'est qu'il n'y a pas d'effet, en tout cas, qui soit mis en évidence de manière rigoureuse et reproductible.
Si vous le voulez bien, on reviendra là-dessus tout à l'heure en reprenant quelques-unes des idées reçues sur l'influence de la Lune, et vous nous direz ce que vous avez trouvé, vous, à l'autre bout. Mais revenons à Francis Leroy. Vous le connaissez, vous, ce Rémi Chauvin, biologiste, expert en Lune?
Oui, dans le domaine de la zététique, Rémi Chauvin, on en a un peu entendu parler, et c'est pas, on va dire que c'est pas quelqu'un qui soit d'une rigueur extraordinaire sur ses critères de recherche et d'analyse de ces phénomènes, quoi.
C'est-à-dire, il fait partie des croyants, quoi.
Oui, tout à fait, voilà. Et des croyants, à la limite, qu'il soit croyant, ça le regarde, mais qu'il laisse sa croyance influencer son travail. C'est ça qui est plus gênant, quoi.
Au fond, cette histoire de Francis Leroy, on peut en inverser le récit. Il ne commet ses crimes que les soirs de pleine lune, parce qu'il croit, lui aussi, aux effets de la pleine lune, comme il croit au vaudou, comme il croit à la chouette, comme il croit au guérisseur chez qui l'amenait sa maman.
Voilà, comme vous l'avez si bien dit dans le récit, il baigne dans une ambiance d'ésotérisme, de paranormal, et donc forcément, il a entendu parler, on lui a parlé des différents pouvoirs revendiqués de la Lune. Et s'il se convainc lui-même que la Lune peut avoir une influence, elle va indirectement agir sur lui par l'intermédiaire de sa croyance. Et ça, on en a des preuves de manière très très courante, hein, ne serait-ce que si on prend en médecine l'effet placebo ou des choses comme ça, c'est l'effet d'une croyance sur la physiologie, et ça, c'est très très documenté. Donc effectivement, le fait qu'il baigne dans ce milieu peut être une explication à ses revendications et au fait qu'il dise que c'est la Lune qui l'a influencé.
Mais c'est plutôt comme ça qu'il faut raconter l'histoire. Il agit les soirs de pleine lune parce qu'il croit à la puissance de la pleine lune et non pas parce qu'il est victime de la lune. Alors, Jérôme Bélaillé, il faut donc que je vous soumette quelques-unes des idées reçues sur l'influence de la lune sur le comportement humain. Et d'abord la première, est-ce que la lune pousse au crime? Est-ce que vous êtes parvenu à répondre à cette question?
Alors effectivement, c'est une croyance qui est assez répandue par rapport au crime et à la violence en général. Ça remonte à loin, hein, puisque déjà dans l'Antiquité, on parlait d'une influence de la Lune sur le comportement humain. Mais en fait, les différentes études scientifiques qui ont pu être faites dans ce domaine n'ont pas apporté réellement de preuves. Mais l'important avec cette croyance, c'est qu'elle est supposée avoir une base scientifique. C'est-à-dire que en 1978, il y a un psychiatre américain qui a publié une étude qu'il avait faite sur l'influence de la Lune sur les crimes aux États-Unis.
Et il disait qu'elle en avait.
Alors lui, effectivement, montrait un beau graphique avec un pic au moment de la pleine Lune. Donc voilà, il avait montré qu'il y avait plus de crimes au moment de la pleine Lune.
Et ça, si c'est pas vrai, qu'est-ce qui s'est passé alors?
Et alors après, comme souvent dans le domaine des études, on va dire statistiques, c'est qu'après, il a tenté ce qui était honorable de sa part, de reproduire son analyse avec d'autres données sur un autre comté aux États-Unis. Et là, les résultats, la courbe obtenue n'était pas tout à fait la même que la première qu'il avait trouvée. Alors il a commencé à modifier son hypothèse pour que ça colle avec ses nouveaux résultats. Et puis il a fait encore une étude différente avec d'autres données. Et il avait encore des résultats différents. Alors, à chaque fois, il modifiait son hypothèse pour essayer de coller à ces différents résultats qui, quand on les prend dans leur ensemble, finalement, montrent quoi? C'est que la fluctuation du nombre de crimes n'avait pas de lien avec la pleine lune. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il y avait peut-être une hausse à un certain moment de l'année ou du mois, mais ça n'était pas toujours à la pleine lune. Sa première étude, peut-être, a été un hasard à ce moment-là, mais quand il a essayé de reproduire,
il n'y a jamais
pas du tout retrouvé les mêmes résultats. Et c'est là où on voit l'influence de la croyance, y compris sur,
sur les
certains chercheurs. Voilà. C'est que là, il s'est laissé guider par sa croyance, il pensait qu'il devait y avoir un effet, et il a cherché à chaque fois à faire coller son hypothèse, ses explications,
très intéressant,
avec sa croyance.
Alors, autre idée reçue, Jérôme Bellayer, on dit que la Lune pousse au suicide. Et que, il y a, vous trouverez toujours un sapeur-pompier pour vous dire, oh, les nuits de pleine lune, on n'arrête pas d'aller ramasser des cadavres. Vrai ou faux?
Alors, effectivement, les pompiers, les gendarmes, les policiers, les gens des urgences sont les premiers à être exposés à ces phénomènes. Et effectivement, quand on les questionne,
c'est sûr,
une très grande majorité, ils vont nous dire qu'effectivement, c'est vrai. C'est-à-dire qu'il y a plus de violence, de suicide, peut-être, de... Mais quand on prend le recul, c'est-à-dire que vraiment on analyse, on note, on prend les statistiques, les relevés, puisque forcément leurs sorties sont notées, leurs interventions sont notées, en fait on ne trouve pas de confirmation de leur dire. Statistiques, oui, tout à fait. Et d'ailleurs il y a un test qui a été fait dans un centre d'appel, où en fait pendant 6 mois, ils ont relevé tous les appels qu'il y avait, centre d'appel donc pour des urgences, des accidents, des bagarres, etc. Donc ils ont demandé au personnel du centre d'appel qui a confirmé qu'effectivement ils avaient eu plus de travail, plus d'appels les soirs de pleine lune.
Oui.
Et après, on a repris toutes les données et on a remarqué qu'il n'y avait rien du tout.
Il y croyait lui aussi. Autre croyance, les nuits de pleine lune, c'est la queue aux urgences psychiatriques.
Ah, ça... Effectivement, ça reste dans le même domaine, c'est-à-dire que le personnel médical majoritairement a cette croyance, et donc il y a différents effets, c'est-à-dire qu'il y a notre manière de réfléchir est soumise à beaucoup de biais psychologiques. Et effectivement, si on croit qu'il va y avoir plus de monde les soirs de pleine lune, eh bien on va arriver à s'en persuader de la manière suivante, c'est-à-dire que si un soir on a plus de monde, on va aller voir le calendrier, si on pense que la lune a une influence. Et on va regarder, on va se dire, ah ben tiens, effectivement, c'était un soir de pleine lune, ça confirme ma croyance. Si un soir, il y a plus de monde, je vais voir le calendrier, et ce n'est pas un soir de pleine lune, c'est un souvenir qui sera beaucoup moins prégnant dans notre esprit. Et quand on essaiera de se rappeler, ça a été montré par des différentes expériences en psychologie, que ce sont les souvenirs qui sont dans le sens de notre croyance qui reviennent les premiers et le plus vite. Et c'est ce qu'on appelle voilà, un biais de confirmation. La mémoire sélective, quoi, si on veut parler, c'est-à-dire qu'on va se rappeler plus des événements qui vont dans le sens de notre croyance.
Passionnant.
Et donc si on prend pour les urgences psychiatriques, on n'a rien noté. En revanche, ce qu'on a noté, ce sont les hospitalisations sur demande d'un tiers qui augmentent, c'est-à-dire sur demande d'un médecin. Voilà, mais en fait, c'est-à-dire que si la personne a un problème comme ça, un sort de pleine lune, c'est en fait l'entourage qui, justement, en baignant un petit peu dans cette croyance, va se dire, il y a un effet de la lune, il faut qu'on le fasse interner. Et effectivement, donc, sur les statistiques, les hospitalisations sur demande d'un tiers augmentent les soirs de pleine lune.
J'ai adoré parler avec vous, Jérôme Bellayer. Je regrette de ne pas pouvoir passer plus de temps avec vous. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Sous l'emprise de la lune, aux éditions Book e-book.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.
Le prochain récit de Christophe Ondelatte nous ramènera en 1990 sur le campus de Gainesville en Floride, où cette année-là, 5 étudiantes sont retrouvées mortes, 5 crimes barbares commis à l'aide d'un poignard. Voilà, Ondelatte raconte Danny Rowling, l'éventreur de Gainesville. Ce sera de 14h à 15h, aujourd'hui mardi, sur Europe 1. Nos programmes de nuit continuent avec Pascal Praud et vous qui avez manqué peut-être l'émission de ce lundi. Nouvelle diffusion dans un instant, le temps d'écouter le groupe Texas en collaboration avec l'organiste claviériste de soul music Spooner Oldham. Voilà 12 chansons incontournables de Texas qui ont été revisitées dans un album sorti le 29 mars dernier. 12 tubes enrichis de 2 reprises, dont celle-ci, Would I Lie to You de Charlie Eddy.
Ooh, look into my eyes. Ooh, who would I be? Who would I be?
De Texas, enregistré dans un studio mythique, orchestré par le talentueux pianiste américain Spooner Oldham. Voilà, ça donne The Muscle Shoals Sessions. C'est le titre de cet album qui est sorti le 29 mars dernier, où vous retrouverez, eh bien, 12 classiques du groupe Texas, mais aussi deux reprises, et on vient d'en écouter une, Would I Lie to You de Charles et Eddie. Merci d'avoir choisi Europe 1 pour vous accompagner. Tout de suite, Pascal Praud et vous en nouvelle diffusion, l'émission qui vous donne la parole en direct entre 11h et 13h sur Europe 1. Et la séance de rattrapage, c'est maintenant.
Géraldine Amon est avec nous. Vous avez passé un bon week-end,
très
Géraldine.
Très bon, reposant. Merci, Pascal.
Vous allez être là toute la semaine, alors qu'il y a certains qui sont en pont ou en viaduc, puisque mercredi, c'est
le 1er mai. Tout à fait.
Donc, il y en a des gens qui ont pris ou le lundi ou le mardi pour aller jusqu'au 1er mai, ou qui vont prendre le 2 et le 3 pour aller jusqu'au 6. Et il y en a qui vont prendre toute la semaine, comme ça, c'est un viaduc, c'est encore plus grand. Donc, il y a peut-être des gens qui nous écoutent, qui sont sur la route. C'est la première fois qu'ils nous écoutent et on les remercie grandement. Je salue donc Olivier Guénèque et cher Olivier, je ne vous avais pas dit bonjour tout à l'heure parce que j'étais un peu dans
vos pensées. Oui, bonjour à tous.
Qui ne sont pas que des fleurs.
Ah, c'est des fleurs aussi.
Les pensées. Oui, bien sûr.
Ah, bah voilà, hop, une connaissance de plus.
Et puis notre ami, évidemment, Laurent Tessier qui est là à la rédaction chef que nous saluons de cette émission.
Et Florian, il existe aussi, il est encore là, il est avec nous.
Mais j'ai
Florian
pas terminé.
Si, vous avez terminé.
Vous voulez écarter des salutations, Florian Carassou-Maillard.
Vous êtes un escroc.
Que j'allais saluer.
Allez-y.
Mais bonjour Florian Carassou-Maillard.
Bonjour Pascal.
Vous avez passé un bon week-end?
Un très bon week-end.
Oh là là. Ça veut dire quoi?
J'ai vu des amis, j'ai profité.
Et vous n'avez pas fait. C'était très bien l'application l'autre jour. On rappelle comment elle s'appelle cette application déjà?
Time Left.
Time Left, c'est-à-dire que quand vous ne connaissez pas des gens, que vous voulez dîner ou déjeuner avec des gens inconnus, vous y allez. Ça se passe. Alors, il faut se déshabiller entièrement avant d'entrer dans le restaurant. Et on passe une soirée sympathique.
Oui.
Bon. Eh ben moi, je vous dirai ce que j'ai fait ce week-end, puisque ça vous intéresse aussi et que vous ne me posez pas la question. Il est 11h08. Donc, Gérard Depardieu est convoqué aujourd'hui pour être placé en garde à vue. Il est, à l'heure à laquelle nous parlons, en garde à vue dans les locaux de la police judiciaire parisienne. Il est entendu sur des accusations d'agression sexuelle. William Molinier, ce sont des affaires que nous connaissions déjà?
Oui, parce qu'en fait, il y avait déjà eu deux plaintes. Enfin, il y a eu beaucoup de plaintes qui ont été déposées pour des faits d'agression sexuelle. En tout cas, les plus récentes et celles sur lesquelles il doit s'expliquer concernent deux tournages. Le magicien et les siamois de Jean-Pierre Mocky en 2014 et d'autres faits qui seraient survenus sur le tournage des volets verts de Jean Becker en 2021. Concernant l'effet du magicien sur le tournage du magicien et les siamois, il s'agit d'une ancienne assistante qui avait porté plainte donc contre l'acteur pour agression sexuelle. Elle était âgée de 24 ans au moment des faits. Elle dit avoir été attouchée sexuellement. Elle décrit aussi plusieurs propos obscènes. Et concernant
est-ce que des propos obscènes d'ailleurs peuvent tomber sous le coup de la loi?
En fait, s'ils sont répétés dans le temps, cela peut effectivement être qualifié de harcèlement.
D'accord.
Alors après, avec plusieurs déclinaisons, harcèlement moral, harcèlement sexuel, ce sera à la justice évidemment de qualifier ces faits-là. Mais effectivement, des propos obscènes répétés dans le temps peuvent être pénalement répréhensibles.
Et l'attouchement, est-ce que on sait précisément ce qu'on reproche à Gérard Depardieu?
Oui, dans la plainte de cette victime, elle décrit des attouchements partout sur sur le corps. Je ne vais pas vous répéter les mots qu'elle emploie, mais voilà, des attouchements sur toutes les parties sexuelles, notamment, et partout sur le corps. Donc voilà, il aura évidemment à répondre sur ses premiers faits. Et puis, concernant le tournage des volets verts, il s'agit d'une décoratrice de cinéma. Elle avait porté plainte contre lui en février dernier, donc cette affaire, elle a été révélée au public plus récemment. Son défait d'agression sexuelle, de harcèlement sexuel et d'outrage sexiste, notamment la victime décrit, relate un piège à loup, ce sont ces mots qui se seraient refermés sur elle. Évidemment, Gérard Depardieu a contesté par voie de presse et via ses avocats, il a contesté les faits reprochés. Ce sont des plaintes qui, vous le savez, viennent s'ajouter à d'autres plaintes, puisqu'il était mis en examen depuis décembre 2020 pour viol et agression sexuelle sur la comédienne Charlotte Tarnoux. Elle avait dénoncé en 2018 deux viols au domicile de l'acteur. Il avait déjà été entendu et il avait été mis en examen pour ces faits. L'enquête, elle, concernant ces faits, suit toujours. Et autre rebondissement, enfin autre élément récent, l'année dernière, en fin d'année dernière, une plainte a été classée sans suite, plainte qui avait été déposée pour agression sexuelle par la comédienne Hélène Darras. Elle a été classée sans suite par le parquet, parce qu'en raison de la prescription, puisque
le 2007, fait, c'était un tournage 2007, en 2007.
Exactement.
Pascal Praud et vous, sur Europe 1.
Vous revenez, Pascal, sur la mort du jeune Mathis, 15 ans, poignardé samedi à mort à Châteauroux par un mineur afghan.
Il a donc été poignardé, effectivement, c'est un mineur connu des services de police. Le jeune homme de nationalité afghane a été mis en examen ce 22 avril. Il avait été mis en examen le 22 avril dernier pour vol aggravé avec violence. Il avait été placé en garde à vue avec sa mère. Et maintenant, on fait quoi? Faut-il revoir vite toutes ces sanctions contre la délinquance des mineurs, en finir avec l'excuse de minorité? Ou au-delà de cela, se pose la problème, la question, en tout cas, d'accueillir sur le sol de France, en l'occurrence, des jeunes gens qui viennent d'Afghanistan. Je voudrais d'abord qu'on écoute peut-être Manuel Valls, ancien Premier ministre. Il était l'invité de Sonia Mabrouk ce matin à 8h10.
Un mineur qui tue à 15 ans mérite évidemment une réponse extrêmement sévère, avec tout l'accompagnement ensuite, en prison et pour sa réinsertion, on peut le penser ainsi, mais la société demande un sursaut et une réponse très puissante de l'État, de la justice. C'est légitime de la part de nos compatriotes qui sont évidemment inquiets.
J'entends cela, mais on l'a dit aussi tout à l'heure. Faut-il continuer d'accueillir des jeunes gens qui arrivent effectivement d'un pays en guerre, puisqu'ils étaient en situation régulière, cette famille afghane, et qui ont fui sans doute pour des raisons religieuses, mais qui arrivent manifestement avec une autre culture, un autre rapport au monde, à la vie, et qui se baladent, ces gosses de 15 ans, avec des armes blanches dans la poche. Donc évidemment que ça pose cette question. Si on ne peut même pas poser la question, je n'apporte pas de réponse à cette question, mais ne serait-ce que poser la question doit être possible. Georges Fenech, ancien magistrat, était ce matin sur Europe 1, écoutons-le.
Aujourd'hui, les mineurs qui commettent des infractions graves, ils sont immédiatement relâchés parce qu'on ne peut pas les juger tout de suite, parce qu'on ne peut pas les condamner tout de suite. Donc, il serait temps aujourd'hui de revoir entièrement le dispositif de lutte contre la délinquance des mineurs, faire en sorte qu'il y ait des comparutions immédiates, des sanctions, courtes peines également, qui sont vraiment très efficaces pour lutter contre la récidive, et puis sanctionner les parents qui laissent traîner leurs enfants, notamment par des tutelles aux prestations sociales. Il faut changer de braquet, les Français l'attendent, mais on ne le voit pas venir.
Alors j'entends, je le répète, ce que dit Georges Fenech, mais la question de l'immigration doit, à mon avis, se poser également. Il a parlé des attaques au couteau, l'ancien magistrat Georges Fenech.
On ne va pas se le cacher, les attaques au couteau, c'est culturel. C'est comme ça dans certaines régions du monde, notamment celles qui nous alimentent effectivement en immigration. On a un défaut d'intégration de ces jeunes qui refusent maintenant toute autorité, qu'elle soit à l'école, devant la police. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, ils sont lâchés dans la nature et qu'on ne se dote pas des moyens pour lutter contre cette délinquance de plus en plus sauvage.
Alors les réseaux sociaux qui sont une forme évidemment de médiatisation aujourd'hui, il y a beaucoup de prises de parole qui ressortent. je pense à Sandrine Rousseau, mais aussi à Gérald Darmanin, qui avait dit dans les années 2020, 2021, 2022, accueillons des Afghans, c'est important, ils fuient un régime totalitaire, etc. Beaucoup de prises de position de ce type sont lues et évidemment, à l'aune de ce qui s'est passé à Châteauroux, font réagir. J'observe également, et je fais un parallèle avec Crépole, c'est-à-dire que Crépole, entre le moment où il y avait eu ce jeune homme mort, Thomas, et l'information diffusée, il s'était passé curieusement 24 heures, 48 heures. Et de la même manière, la mort de Matisse ce matin, que ce soit par exemple dans Le Parisien, elle n'est pas à la une du journal Le Parisien, ce n'est pas la une non plus des grands... hier soir, ce n'était pas la une des grandes messes du journal de 20 heures. Et je vois effectivement une réaction de type Crépole. C'est un jeune Français de 15 ans qui est tué par un Afghan. Ça ne correspond pas exactement à la grille de lecture de l'espace médiatique. Donc, ce n'est pas mis en valeur, si j'ose dire, de la même manière. Donc, on est avec Rudy Manin, que vous connaissez, Rudy Manin, qui est porte-parole d'Alliance Police. Pardonnez-moi, Rudy Manin, de dire les choses telles que beaucoup en fait, de Français le vivent aujourd'hui. Et c'est vrai que cette mort de Matisse, aujourd'hui, ces prochaines minutes, les choses seront peut-être différentes, mais la réaction médiatique n'est pas forcément au niveau de ce drame, me semble-t-il.
Oui, alors vous savez, moi, ce drame absolu, hein, parce qu'on ne le dit pas assez, mais la famille de Matisse, elle a pris perpétuité hein, dans la douleur qu'elle va vivre jusqu'à la fin de ses jours. Moi, ce drame-là, il me donne trois sentiments, il me fait penser à trois sentiments. Le premier, c'est l'échec de la justice. C'est un véritable échec puisqu'ils ont libéré un individu par impossibilité de faire autrement qui a commis un drame absolu. Le deuxième sentiment, c'est l'impuissance des policiers malgré notre travail acharné. Pascal, et vous le dites suffisamment sur vos antennes, on a quand même interpellé cet individu trois fois en un mois et demi pour des faits qui sont extrêmement graves. Et là encore, on a interpellé l'individu une heure et demie après qu'il ait commis ce drame absolu. Et le troisième sentiment, c'est l'impunité de ces délinquants. En fait, ils vivent dans une impunité totale. Ils se disent que de toute façon, ils ne risquent rien parce qu'ils ont moins de 18 ans et encore moins quand ils ont moins de 16 ans. Et c'est ça aujourd'hui qu'il faut retenir de ce nouveau drame au couteau. Encore une fois, on en avait parlé sur votre plateau, Pascal, de ces fameuses attaques au couteau. Plus de 120 par jour, attaques au couteau en France. Et quand vous attaquez quelqu'un avec un couteau, surtout quand vous le plantez à quatre reprises, parce que le jeune Matisse a été planté à quatre reprises. Ça veut dire qu'il y a une vraie volonté de tuer. Parce que quand on plante une fois, on peut s'en sortir, mais quand on plante quatre fois, c'est qu'on veut tuer le jeune qu'on a en face de nous. Alors voilà, c'est un peu le ressenti du policier que je suis aujourd'hui quand je vois cette nouvelle affaire et ce nouveau drame.
Gilles Averrousse, qui est le maire de Châteauroux, a dit « C'est avec une profonde tristesse et une grande consternation que j'ai été informé samedi soir du décès tragique d'un adolescent suite à une rixe. » Mais là aussi, le mot « rixe », moi, est-ce que c'est le mot qui convient dans les propos, dans le tweet du maire de Châteauroux, suite à une rixe? C'est pas ça une rixe, me semble-t-il, survenue aux alentours de 17h30 au quartier du Saint-Denis. Mes pensées vont en premier lieu aux parents, à la famille et aux proches de la victime, à qui nous adressons nos plus sincères condoléances et tout le soutien des Castelroussins. La sécurité, bien que relevant de la compétence première de l'État, est une priorité absolue de l'action municipale. Nous n'avons d'ailleurs jamais mis autant de moyens que ces dernières années pour la sécurité des habitants. Je ne renoncerai jamais à investir dans ce domaine. Alors les réactions, comme toujours d'ailleurs, c'est ça qui est terrible aujourd'hui, elles sont plus à droite qu'à gauche. Chez Jordan Bardella qui dit « C'est un nouveau drame lié à notre politique migratoire. Le jeune Matisse, 15 ans, habitant de Châteauroux, a été tué au couteau par un mineur afghan, tout juste relâché par la justice. J'ai une peine immense pour sa famille et une colère immense pour nos dirigeants. Éric Ciotti également, le tueur avait déjà été mis en examen la semaine passée. Pour lui, aucune tolérance, c'est la prison et l'avion, est-il dit, etc., etc. » Mais on voit la polarisation aujourd'hui de la vie politique qui fait que, et même dans la vie civile, il n'y a pas eu de tweet de personnalité pour saluer pour hélas honorer la, en tout cas pour regretter la mort de Matisse, Rudy Mana.
Ah oui, moi je trouve ça extrêmement triste, et encore une fois, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais moi je pense horriblement à la famille, parce que vous savez, là l'excuse de minorité, elle ne sera pas acceptée pour la famille. La famille, ils ont pris perpétuité dans la douleur, ils ont pris perpétuité dans la souffrance. Il y a un gamin de 15 ans qui est décédé à cause de 4 coups de couteau. Alors moi, vous savez, le maire de Châteauroux, je crois que c'est lui que vous citiez tout à l'heure, il parle de Rix. Bon, vous savez quoi, il en sait plus alors que nous, parce que nous-mêmes, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. On verra ce qui s'est passé sur cette affaire, mais moi ce que je retiens, c'est le drame. C'est pas le mot Rix qu'il faut employer là, c'est un drame. Parce que même s'il y a une altercation, est-ce qu'on a le droit d'utiliser un couteau et de planter à 4 reprises un individu avec qui on a une altercation? C'est fou de penser ce genre de choses. Moi ce que je dis, c'est que c'est un drame, un nouveau drame, et Dieu sait qu'on en a régulièrement en France, tous les jours. Je vous disais le chiffre de 120 attaques au couteau tout à l'heure. Je vous disais également qu'il y a tous ces individus qu'on contrôle, effectivement, et Georges Fenech l'a dit précédemment, j'ai écouté en amont les passages que vous avez mis de Georges Fenech, effectivement, ils ont tous des couteaux sur eux. Il ne faut pas se voiler la face. Vous contrôlez des individus maintenant, des jeunes qui errent dans les centres-villes de toutes les villes de France. Ils ont tous des couteaux sur eux. Alors imaginez ce qu'on peut faire en poursuite judiciaire, ben en fait, rien du tout. Rien du tout, parce que déjà ils sont relâchés alors qu'ils ont fait des vols violents avec un couteau. Imaginez si vous le présentez simplement parce qu'il a un couteau sur lui. Ben voilà où on en est aujourd'hui en France en 2024, et malheureusement on a ce drame qui se réitère de plus en plus souvent.
Monsieur Averroes, qui a été réélu maire de Châteauroux avec 70% des voix dès le premier tour, et il vient de la droite puisque en 2014 il avait gagné la mairie en menant une liste UMP. Nous sommes avec Didier. Merci beaucoup, Rudy Mana, porte-parole Alliance Police. Didier, qui habite Châteauroux, voulait prendre la parole. Bonjour, Didier.
Oui, bonjour. Allô?
Oui, non, mais je vous entends. Oui, d'abord, est-ce qu'il y a beaucoup d'immigration aujourd'hui à Châteauroux? Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent, pourquoi pas de l'Afghanistan, mais qui sont des réfugiés? En l'espèce, il était en situation régulière, ce jeune mineur.
Oui, bah écoutez, moi je suis un Castelroussin de 70 ans et j'ai vu ma ville changer petit à petit. Pour s'en convaincre, il suffit d'aller au supermarché près du centre-ville le soir à 9h. Nous sommes une poignée de Français perdus au milieu d'une marée de gens étrangers. C'est pas autre chose que ça. Et hier, dès que j'ai entendu cette info d'attaque au couteau, qui revient en fait toutes les semaines en France, on pense aussitôt à cette population étrangère qui a en commun, quel que soit son pays d'origine,